Il y a des émissions plus faciles à ouvrir que d'autres. Celle d'aujourd'hui est de celles où les mots doivent être pesés et choisis. Chaque 27 janvier, en mémoire de la date anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, est organisée la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et à plus grande échelle, celle des génocides et à la prévention des crimes contre l'humanité. L'occasion pour la lorgnette de s'intéresser au sujet de l'Holocauste, notamment en Loire-et-Cher, mais aussi, et puisqu'on a sans doute à tort l'impression de tout savoir sur le sujet grâce au travail énorme des historiens et des historiennes, l'occasion donc de questionner la mémoire, la transmission et le travail des chercheurs et des institutions pour perpétuer la connaissance sur ce vaste et complexe sujet. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans La Lorgnette. Je suis donc accompagné pour cette émission de Thérèse Gallovilla, historienne locale. Bonjour Thérèse.
Bonjour.
Et de Frédéric Aurin, conseiller délégué à la mémoire et à l'éducation mémorielle à la ville de Blois. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci de votre invitation.
Eh bien, c'est avec plaisir qu'on vous invite pour ce sujet, comme je le disais, qu'on a sans doute, et sans doute pas d'ailleurs, à tort, l'impression de savoir, puisque l'histoire est enseignée à grande échelle sur ce sujet, notamment sur l'Holocauste et la déportation. Et donc, il y a évidemment un travail derrière qui s'est fait, et donc il y a une masse de travaux et de recherches qui est fait. Et donc on va pouvoir en parler en long et en large aujourd'hui, avec notamment donc dans quelques minutes le témoignage d'un rescapé de cette période que vous nous avez proposé, Thérèse, et donc qu'on pourra écouter dans quelques minutes. On va commencer évidemment par les faits, par rappeler ce qui s'est passé, en quoi a consisté le système de la déportation et des camps de concentration. Qu'est-ce qui a mené allons-y directement avec vous, Thérèse. Qu'est-ce qui a mené à la création des camps et à la déportation de millions de personnes?
Je crois qu'on peut dire que les choses viennent de très loin. Comme très souvent, quand il y a de tels phénomènes dans l'histoire, ils ont souvent ce qu'on appelle un cheminement sur le longtemps de l'histoire. Mais sans remonter, bien évidemment, trop loin, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours eu dans la société française un antisémitisme assez ancré, qui a d'abord eu essentiellement un caractère religieux. Ça va changer à la fin du XIXe siècle, où les données politiques liées à la perte de l'Alsace-Lorraine, à l'affaire Dreyfus, mais aussi pour les raisons économiques, où on a déjà beaucoup de juifs et d'étrangers de manière plus générale d'Europe orientale qui viennent, vont commencer à faire ressurgir un certain nombre de thèmes. La guerre de 14 va amoindrir l'antisémitisme, c'est lié aux souffrances dans les tranchées, c'est lié à la fraternité qui s'y était liée,
qui se dégage après
toute religion. L'antisémitisme en France va re-exploser, le terme n'est pas trop fort, avec les années 30, en liaison, vous savez, la fameuse grande crise économique de 29.
En même temps que ce qui se passe en Allemagne.
En 29, une immigration qui continue à s'accentuer, une France qui se sent déclassée, qui voit dans les étrangers, vous savez, c'est vieux comme le monde hélas, les ennemis. Et vous allez voir fleurir un antisémitisme dont les thèmes essentiels vont être... Ils viennent prendre le travail des Français. Ça touche, à l'époque, essentiellement les couches intellectuelles, on pourra en reparler, notamment les médecins, les avocats, etc. Ils mettent en péril l'identité, les fondements de ce qu'est la France. C'est la plutocratie. On voit arriver le thème, si vous voulez, donc des juifs apatrides, donc qui alimentent le capitalisme international. Bon, donc tous ces thèmes et qui vont se cristalliser sur le concept de complot juif. Voilà. Donc on a cet ensemble d'ingrédients. Et ce que je voudrais souligner quelque chose, c'est qu'on ne le sait pas assez, c'est que les choses ont commencé avant Pétain. Des historiens parlent d'un Vichy avant Fachy, et je trouve ce terme assez juste. En gros, pour aller vite, avec l'arrivée de Daladier en 38, donc la fin, grosso modo, du Front populaire, la hantise des étrangers, vous savez, la fameuse cinquième colonne, etc., va vraiment être extrêmement répandue en France. On va donc adopter toute une législation anti-étranger. Et il faut bien voir que dans anti-étranger, c'est souvent anti-juif ou anti-opposant, etc., qui dominent. Donc des camps, je vais très vite, là, des camps vont être institués. On en a eu 5 dans notre département. 5 camps où d'abord on va mettre les réfugiés républicains espagnols, qu'on regarde quand même un peu comme ça, les opposants politiques, communistes, socialistes, etc. Et à partir de la déclaration de guerre, on va y mettre une partie de tous ces étrangers qui, à partir de la montée du nazisme, avait été venu se réfugier en France, donc bien sûr les juifs allemands, les juifs tchèques, etc. Et on va les mettre dans ces camps. Voilà. Donc on a, si vous voulez, avant même Vichy, un ensemble d'éléments qui créent un terreau favorable aux mécanismes qui vont se passer après. Alors très vite, on ne peut pas faire l'économie de ce qui s'est passé en Allemagne. Dès 1920, le programme nazi contient les mesures anti-juives. 32, Hitler au pouvoir. 33, c'est les premières lois et anti-juives. Et notamment, on va, si vous voulez, la stratégie allemande, il faut bien voir ça. On la retrouvera en France. Ça va être de taper le porte-monnaie. Au départ, ils ne veulent pas les exterminer physiquement par là. Ce qu'ils veulent, qu'ils partent. Donc, on va faire l'aryanisation de l'économie allemande, c'est-à-dire en gros, les déposséder de tout ce qu'ils peuvent avoir, commerce, biens, etc. On va les exclure de la vie sociale, économique. On va interdire les mariages entre juifs et non-juifs, les relations sexuelles. Donc, l'apothéose va être donc les lois de Nuremberg de 1935 et la fameuse nuit de cristal de novembre 1938, parce qu'on considérait que ça n'allait pas assez vite, donc de créer les conditions d'un choc psychologique sur les juifs allemands et d'autres pays qui commençaient à devenir des pays satellites donc, des nazis, pour les faire partir. On a cet ensemble-là au moment où va commencer la guerre. Si vous me permettez un petit mot, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien percevoir. Souvent, les gens ce qu'il faut mesurer, c'est que les juifs français, notamment ceux qui sont de vieilles souches françaises, n'arrivent pas à concevoir que la France pourrait un jour imiter le régime nazi. C'est quelque chose, si vous voulez, qui va durer longtemps, qui va durer y compris après les premières vagues de répression. Pour eux, la France, c'est les droits de l'homme, c'est la liberté, c'est le pays qui les a accueillis, qui leur a donné du travail, qui éduque leurs enfants. Et cette incrédulité, parce que c'est une véritable incrédulité, si vous voulez, de la communauté juive française au moment du début de la guerre, et juste, ça va durer encore au moins jusqu'en 1941, et presque un peu début 1942, c'est quelque chose qui va expliquer donc aussi les phénomènes que nous rencontrerons.
Vous parliez des couches intellectuelles, pourquoi ce sont les couches supérieures qui sont les plus impactées, ou en tout cas qui sont visées par ce système?
Si vous voulez, vous avez... donc je vous dis, la France vit une période de déclassement, mm-hmm. hein, après la guerre, après la Grande Dépression. Et vous avez par exemple, on n'a jamais vu ça, cette photo, il faut la connaître, une manifestation d'étudiants en médecine à Paris, contre les métèques. Bon, vous avez donc toutes ces professions qui se sentent menacées et qui vont alimenter grandement cette espèce d'antisémitisme général qui voit dans les juifs, et notamment tout ce qui va être les médias, l'éducation, en gros toutes les matières intellectuelles, celles qui influencent l'opinion publique, des dangers. Hein, voilà, plus que la concurrence à l'époque économique. C'est surtout celle-là. Et ce qui va, si vous l'expliquez, qu'une des obsessions de Vichy, vous allez la trouver dans le fameux premier statut des Juifs d'octobre, donc 40, oui, va être de vider tous ses emplois, et notamment toute la haute fonction publique, les postes supérieurs de l'armée, des Juifs pour purifier, si on peut dire entre guillemets, donc la nation. Voilà.
Comment le système s'organiser? Comment la machine institutionnelle, notamment,
s'est
mise en place pour, pour mettre en place ce que vous décrivez.
L'armistice. Donc l'armistice, le 17 juin, Pétain demande l'armistice. Le 20, l'armistice. Elle entre en vigueur le 25 à 0h35 du matin, parce qu'on attendait que les Italiens aient aussi signé l'armistice avec la France. Donc, à partir de là, il y a d'autres zones, mais deux grandes zones. La France est coupée en deux avec d'autres petites zones, sur notamment le nord et l'est et le sud. En gros, vous allez avoir donc une zone nord occupée, où le gouvernement de Vichy est officiellement toujours le gouvernement français, et une zone sud dite libre, avec Vichy. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vont cohabiter en zone nord les ordonnances et la législation allemande, la législation de Vichy, mais Vichy étant prié de mettre toute l'administration française à la disposition des Allemands, et c'est l'administration française qui appliquera les ordonnances allemandes. Voilà, il faut avoir ça à l'esprit. Donc, la mécanique se met en place avec, si vous voulez, la technique suivante. Généralement, ordonnance allemande. Vous allez la voir très très vite, dès le 27 septembre, ce sont les Allemands qui définissent la statue du juif, et ils sont prudents. Ils n'appliquent pas tout de suite les définitions de Nuremberg. C'est la France, on fait quand même un peu attention. Et surtout, il lance l'aryanisation de l'économie. C'est-à-dire comment petit à petit, on va déposséder les juifs de tout ce qu'ils possèdent, la même tactique. Vichy, à qui on ne demandait rien, surenchérit. Et dès octobre, je vous l'ai dit, statut des juifs, avec une définition du juif plus contraignante que la définition allemande. Mmh. Allemande, puisque pour vous dire, il fallait trois grands-parents, ou pour les Français, deux grands-parents, mais si vous aviez un conjoint juif, c'est-à-dire extraordinaire. C'est le mariage qui vous donnait, qui vous donnait finalement donc, la position et l'appartenance donc, à la communauté juive. Et puis vous allez avoir ça pendant plusieurs mois. Ça va être comme ça. C'est-à-dire les Allemands prennent, font exécuter par les Français. Pétain rajoute trois louches parce que pour lui, comment vous dire, l'antisémitisme, il considère que c'est vraiment le meilleur moyen de donner des gages aux Allemands, qu'il a l'opinion publique pour lui et que ça correspond aussi à toute l'idéologie de la Révolution nationale. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la, comment dirais-je, l'os de l'idéologie donc pétainiste. Hein, voilà.
Frédéric, allez-y. Une petite chose quand même. Alors, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Je précise juste que, effectivement, contrairement à une idée reçue, Pétain n'a pas amoindri la législation allemande. Bien au contraire. Il en a rajouté. Et par exemple, la dénaturalisation des Juifs, hein, oui. 7000 Juifs dénaturalisés, et dès le 22 juillet 40.
Oui, hein,
donc il y a le retour de cette idéologie comme quoi, finalement, le glaive et le bouclier, hein, Pétain aurait protégé la France, etc. C'est faux. Il faut le dire historiquement, c'est prouvé, c'est acté. Il n'y a plus de débat sur cette question depuis longtemps.
Pour
c'est bien de le rappeler, puisque effectivement, on essaye de relancer le débat sur cette question.
Pour parler du Loir-et-Cher, il y a pas...
J'allais y venir, mais allez-y.
Une lettre du préfet qui répond au ministre de l'Intérieur. Le ministre de les Allemands avaient demandé donc au gouvernement français que les préfets leur transmettent les listes des opposants qu'ils avaient arrêtés. Là, on n'est pas sur des juifs, hein. On est sur des francs-maçons, des communistes, des socialistes. Bon. Le préfet de Loir-et-Cher envoie donc au commandant de tour local toutes les listes des gens qu'il avait arrêtés, incarcérés d'ailleurs dans les camps dont je vous parlais tout à l'heure, et qui va permettre après, mais bien évidemment, aux Allemands d'avoir toutes les informations lorsqu'ils passeront à un stade supérieur, qui sera la répression et après l'emprisonnement et la déportation. Et vous allez avoir ça toute l'année 41. Une ordonnance allemande, Pétain rajoute trois louches, et sur, je dirais, les droits personnels et sur la partie économique. Mais là, c'est le grand tournant, c'est en gros le printemps, si vous voulez, l'été 41. Voilà, parce que là, les Allemands trouvent que Pétain, c'est un peu léger, dans sa politique à l'égard des Juifs, c'est pas suivi. Il exige la création d'un organisme unique qui coordonnera toute la politique anti-juive. C'est le fameux commissariat général aux questions juives. Ouais. À partir de là, les Allemands continuent, ils montent encore d'un cran, donc avec les fameuses ordonnances du mois d'avril. Et Pétain, là, c'est vraiment le grand tournant, c'est le deuxième statut des Juifs. Où là, il va avoir c'est là que les conséquences vont être absolument énormes, parce que le deuxième statut des Juifs les exclut alors là complètement, implique le recensement total des Juifs à partir d'une nouvelle définition aggravée. Tout à l'heure, je vous ai dit, trois grands-parents juifs, vous étiez juifs, ou si votre conjoint était juif, donc lui aussi trois grands-parents, là on passe à deux grands-parents seulement. C'est-à-dire, l'obsession de Pétain, je ne sais pas si vous avez regardé hier soir ce très beau film sur Annette Zellman, qui était vraiment où un certain nombre des questions étaient au cœur, et donc où l'obsession de Vichy, c'était les mariages mixtes. Parce qu'on considérait que l'âme française était en train de se diluer dans les mariages mixtes, et donc, dans sa définition, il tape là-dessus. Et ça va être dramatique, parce que là, on va trouver, et dans notre département, beaucoup de cas, les enfants, juifs, pas juifs. Pouvez-vous faire la démonstration que vous avez deux ou trois conjoints qui sont juifs ou pas juifs? Bon, et donc, ça va ouvrir la porte à la répression très importante, donc, et à partir de là, vous avez l'escalade qui se poursuit, et les textes dont on parle beaucoup, c'est à partir de la fin 41. Alors, pas de TSF, plus de téléphone, on ne peut plus parler, les juifs ne peuvent plus aller dans tout ce qui est emplacement public, cinéma, etc. Ils ne peuvent faire des courses qu'entre 15 et 16 heures. Ils vont être interdits, si vous voulez, de l'ensemble de ce qui est un minimum de droits humains et de vie publique. Ils ont, en plus, des heures dérogatoires pour pouvoir sortir. C'est comme ça que les petits Yankelovitch seront donc dénoncés et arrêtés. Et bien sûr, l'apothéose de cette affaire, c'est l'étoile jaune. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment un des tournants, mais pas que pour les Juifs. Ça, c'est tragique. Ça va être aussi quelque chose qui va pousser à une prise de conscience de la population française. Parce que là, comment vous dire, tout ce qu'ils savaient, on disait, etc. Là, c'est visible. Voilà. C'est la discrimination totale. Et c'est elle qui va jouer un rôle extrêmement important.
Eh bien,
ça se voit localement aussi, parce qu'en fait, on a une multiplication des rafles qui se font entre 40, 41, 42. 42, on est à l'apogée des rafles.
Dans le département, il n'y a pas de rafles, ni vraiment, attendez, d'arrestation de juifs résidant dans le département avant début 42. Ce qu'il y a, c'est l'arrestation de juifs qui tentent de passer la ligne de démarcation. Mmh. Hein, voilà, ça oui. Et c'est l'année 42, c'est l'année horribilis. Horribilis en général, et elle est, pour notre département, c'est vraiment celle qui va marquer l'essentiel des déportations.
Eh bien, je vous propose d'écouter, je vous en parlais en introduction de cette émission, Pierre Janel.
Alors Janel, vous savez, c'est le dernier, alors c'est le troisième enfant, dernier survivant de la famille Yankelovitch, il a changé de nom après la guerre, et qui donc est sûrement le dernier survivant de notre département ayant connu la Shoah. Il avait 10 ans à Contres à ce moment-là.
On l'écoute justement.
Monsieur Janel, merci de nous accorder de votre temps. Je vous laisse tout d'abord vous présenter.
Je suis donc Pierre Janel, mon nom de naissance est Jean Kielowicz en un seul mot. Et j'ai changé de nom en 1959. Je suis donc né le 29 juin 1933 à Contres. J'ai vécu jusqu'en 1942, à la suite de quoi nous sommes partis à nous réfugier dans le Berry, et nous sommes revenus à la Libération en 45. Et nous avons attendu pendant, mes parents ont attendu pendant 2 ans, le retour de mon frère et ma sœur, qui avaient été déportés à Auschwitz et pour laquelle... Ils avaient espéré, notamment pour ma sœur, qui était en bonne santé à l'époque, le retour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre frère et votre sœur ont été arrêtés et pourquoi ?
Vous savez qu'en qualité de juif, mes parents, mon père n'avait plus le droit d'exercer son commerce de vêtements à Contres. Donc un type était venu de Paris pour prendre sa succession. Tous les deux se sont pas entendus, si bien que les gendarmes un jour sont venus prévenir mon père qu'il valait mieux partir. Parce que ce monsieur était membre d'un parti politique qui était favorable au régime de Pétain et qui risquait d'être arrêté. Or, en définitive, ce successeur, pour se venger peut-être du départ de mon père, a dénoncé mon frère et ma sœur comme ne portant pas l'étoile jaune et rentrant après le couvre-feu auquel ils étaient astreints, qui était de l'ordre, je crois, 18h. Pourquoi ? Parce que mon frère et ma sœur allaient dans un jardin, ils faisaient pousser des légumes, il fallait bien manger, il fallait bien vivre. Et ils avaient un petit jardin en face de l'école de Contres, un grand jardin d'ailleurs, où on récoltait des légumes et on en vendait un petit peu à l'usine de conserve. Et quand un beau jour, les Allemands sont arrivés chez ma mère, et on constatait que mon frère et ma sœur n'étaient pas là. Les gens avaient prévenu mon frère et ma sœur au jardin et sont arrivés 10 minutes et 15 minutes après. Ils n'ont pas été arrêtés tout de suite, mais ils ont relevé, soi-disant, une infraction. Et puis, c'était incroyable parce qu'on ne s'imaginait pas que... Et personne ne s'imaginait qu'ils pouvaient être un jour enlevés. Et 15 jours après, une voiture de gendarmerie est venue les chercher. Enfin, où la police allemande est venue les chercher, et là, ma sœur est restée 1 an à la prison de Blois, et mon frère est resté 3 mois. Ils ont été condamnés l'un et l'autre à 3 mois de prison pour ne pas avoir porté l'étoile jaune et faire aller en retard. Mais à la fin de leur peine, ils n'ont pas été relâchés, et ma sœur est donc restée 1 an, et mon frère, lui, a été envoyé à Pithiviers. Ils se sont retrouvés à Drancy au moment où ils allaient être déportés et ils allaient faire, comme dit ma sœur, le grand voyage.
Quel âge avaient votre frère et votre sœur à l'époque ?
Ma sœur avait 20 ans, elle a fait ses 20 ans en prison et mon frère avait 18 ans. D'après les recherches qui ont été faites par mon père après la guerre, ils auraient été... gazés tous les deux à l'arrivée du convoi. Mais on a eu cette information longtemps après, peut-être 2-3 ans après, parce que je sais que mes parents, ma mère, a toujours espéré, bon, 2 ans durant, que ma sœur pourrait rentrer. Peut-être, bon, parce qu'on, il y en a qui, certains, qui disaient que les Russes les avaient libérés, qu'elles étaient parties en Russie, mais qu'il fallait attendre pour qu'on puisse les libérer. Il y avait, au fait, pas mal, il y a eu des escroqueries là-dessus, des types qui allaient chez des gens qui avaient des déportés, qui disaient qu'ils se présentaient revenir de Russie, et qu'il fallait donner de l'argent pour que les enfants ou la famille reviennent. Oui, c'était une période très difficile, même à l'après-guerre, et mes parents n'ont pas vécu. C'est des gens qui ont toujours été tristes.
Quels souvenirs vous gardez de l'époque de l'occupation ?
Je ne peux pas parler que de ce que j'avais ressenti à l'époque, et étant, j'avais 8-9 ans. En fait, ce n'était que ce que mes parents et mon frère et ma sœur pouvaient dire. Quand l'occupation allemande s'est passée, est arrivée, mes parents, comme tout le monde, a subi les premières exactions. Ensuite, quand il y a eu les lois avec le nouveau gouvernement de Vichy, lois anti-juives, là sont apparues les différences, et je dois dire que pour moi, et je pense pour mon frère et ma sœur aussi, on ne savait pas ce que c'était que d'être juif. On n'en parlait pas à la maison. On savait même qu'est-ce que ça pouvait être. Et je m'interrogeais, je savais bien que j'avais compris que mes parents, avec le nom que nous portions, nous avaient marqué. Mais cherchaient les raisons pourquoi ce nom est. Et en fait, nous n'étions pas élevés dans la culture juive. Donc tout ça, on nous a marqué avec une étoile pour faire une différence des autres, mais je ne savais pas quelle était la différence, parce que nous n'étions pas religieux du tout, du tout, du tout.
Est-ce que vous vous êtes rendu à Auschwitz par la suite ?
Non. Je n'y suis pas allé et je ne me sens pas la force d'y aller. Je milite quand même pour faire des voyages pour que les jeunes y aillent, les jeunes qui puissent participer et comprendre ce qui s'est passé. Ben, moi, je suis affolé. Affolé par ce qui se passe actuellement. Parce que vraiment, quand j'étais au lycée, quand j'étais jeune, de l'époque de 15 à 20, jusqu'à 25 ans, j'ai jamais subi d'antisémitisme. De temps à autre, quelquefois, il y avait des paroles qui étaient un peu dur, mais c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe actuellement. La période actuelle, qu'elle soit pour tous les gens qui sont un peu mystiques, je dis mystiques, hein, parce que aussi bien les juifs, les catholiques, que les musulmans sont attaqués par les autres religions. Mais c'est pas normal, c'est quand même, que toutes ces exactions, et comment arriver à faire que les peuples s'entendent, ben écoutez, quand on voit ce qui se passe actuellement dans l'Europe de l'Est, la Russie, c'était quelque chose d'inimaginable, inimaginable. Et alors pour moi, c'est d'autant plus difficile, parce que ayant un nom très banal dans la vie, j'entends beaucoup de gens qui me connaissent pas, que si je voyage, si je vais à l'hôtel, si je vais... Eh ben, j'entends des gens qui attaquent les communautés, et ça me fait bondir à chaque fois. À chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de rentrer dans leur conversation et d'essayer de les remettre à leur place. Moi, j'ai bientôt fini ma vie, mais quelle sera la vie des enfants et tout ça? C'est vraiment très inquiétant. Comment arriver à faire entendre raison? Parce que c'est une question de raison. On n'arrive pas à comprendre quelle est cette animosité. Je crois que c'est un prétexte. Et il faut que les gens, que certains, manifestent leur colère par des actes brutaux et criminels.
Merci beaucoup, Monsieur Janel, pour votre témoignage.
Allez, ça sera une forme de testament. Allez. Voilà. Au revoir.
Au revoir.
On remercie Clémentine, vous l'aurez entendu dans ce magnéto, qui a réalisé l'interview donc de Pierre Janel. Rapidement, Frédéric, une réaction à ce témoignage.
Pas facile de réagir après un tel témoignage, c'est bouleversant. Et puis, moi, ça m'interpelle particulièrement parce que, outre mes fonctions électives, je suis aussi professeur d'histoire géo. Et c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup, puisque quand ces derniers témoins seront partis, on aura cette charge d'essayer de transmettre cet héritage et cette mémoire, avec toujours la difficulté de ne pas se sentir forcément légitime pour le faire, parce qu'on n'a pas vécu cette période du conflit. Et comme il l'indique dans son témoignage, on voit cette montée de l'antisémitisme, du racisme, de l'intolérance. On parlait tout à l'heure de la fascination que pouvaient avoir les régimes démocratiques comme celui de Daladier pour l'espèce de virilisme d'Hitler et des dictatures. Alors, l'histoire ne recommence jamais, hein, bien évidemment, mais on voit bien le danger se présenter, comme quoi, effectivement, il y a cette fascination pour des dictateurs aujourd'hui, pour des méthodes brutales qui seraient soi-disant plus efficaces. Donc ça nous fait peser une charge très importante sur ce devoir. Alors, on parle souvent de devoir de mémoire. Je préfère
je vais revenir sur la question après une pause.
De connaître l'histoire pour éviter de la reproduire, mais surtout transmettre ce message de tolérance qu'on perd un petit peu partout, en fait, dans la société. En fait, on tolère plus, on supporte, et encore à peine, parfois.
Je vous propose une petite pause musicale, et on va en revenir après sur justement le sujet de la mémoire, continuer sur la question de l'Holocauste, et justement sur cette notion de devoir de mémoire que vous évoquiez.
Who are asking to be born. Dance dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
Vous venez d'écouter la chanson Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, vous aurez reconnu sa voix inégalable. Chanson, c'est pour ça que je l'ai choisie pour cette émission, chanson inspirée par des photos de musiciens des camps qui étaient sommés de jouer pendant les exécutions. Voilà, c'était, je voulais le signaler. Thérèse, hors antenne, vous nous disiez que vous vouliez peut-être amener le chiffre dans le Loir-et-Cher. On n'a pas fait de focus effectivement spécifique.
Intéressant, oui, pour notre département, c'est d'abord les données suivantes. Au départ, donc, disons, avant la guerre, il y a la communauté juive est très petite. Hein, a tout cassé une centaine de personnes, essentiellement Blois, Romorantin, Vendôme, des commerçants, des artisans, quelques industriels, beaucoup, des professions libérales et des fonctionnaires. C'est à peu près ça, donc, le profil. Tous quasiment des Juifs français, tous très bien intégrés. Moi, ce que j'ai pu recouper, peu de religieux. Il n'y avait d'ailleurs pas de synagogue, hein, on en parlait tout à l'heure, donc, dans le département. Par contre, des strates supplémentaires vont arriver. Je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, d'abord, de tous ces réfugiés juifs venant donc d'Allemagne, de Tchécoslovaquie, surtout d'Autriche, après l'Anschluss, donc, qui vont être les indésirables, dont on en libérera un certain nombre. D'autres seront, ça il faut le dire, le gouvernement français les gardera dans des camps, notamment Gurs, Mils, etc. Et ils seront livrés aux Allemands en 1942. Hein. Donc ça, bon. Donc, nous allons aussi avoir des gens de la région parisienne qui vont venir clandestinement dans nos campagnes. Et nous aurons des gens qui vont y venir légalement, demanderont pour des raisons de santé. Et vous allez avoir tous ceux qui vont venir de Belgique, de Hollande, de toutes les zones de Paris, de la région parisienne beaucoup, mais aussi de l'Est, etc., qui tenteront de passer la ligne de démarcation. Donc c'est cet ensemble-là qui va faire l'objet de la répression. Et donc, en gros, si vous voulez, moi je... Bon, bien sûr que je n'ai pas tout le monde, parce que c'est très difficile, bien il y a sûr, des problèmes ouais. De nom, etc. Mais moi, je peux dire, preuve à l'appui, si j'ose dire, passez-moi cette outrance-là, c'est qu'on a au moins on a 200 morts, déportés morts, plus, attendez, 200, plus le camp de la Motte-Beuvron, qui avait servi à accueillir des Juifs qui venaient d'autres camps, et notamment de la Vienne, où là, on a à peu près 115 qui seront déportés. Donc, on a 320 personnes du département, d'une manière ou d'une autre,
parties dans les camps,
déportées et surtout exterminées.
Exécutées.
Et une petite vingtaine qui a été incarcérée, soit Drancy, soit d'autres camps, et qui a pu s'en sortir pour des raisons différentes, d'âge, le temps qui a passé et la libération est arrivée. Donc ça fait quand même un bilan important. Pour vous dire, à la libération, en 44, août 44, on peut à peu près avoir des chiffres. Il restera quasiment 5 juifs étrangers, donc 4 de plus de 60 ans et 4 femmes. Il restera 6 juifs français, pareil, des femmes âgées, et il restera des enfants. Et là, on n'a pas complètement le chiffre, parce que nous avons connu dans notre département un phénomène très positif, réconfortant, qui est que le Loir-et-Cher a été un des principaux départements d'accueil pour les enfants qui vont être cachés dans nos campagnes, par les organisations juives, mais pas d'autres organisations, et qui les cacheront, les accueilleront. Voilà. Et peut-être une chose, pas ça, il faut le dire.
Une dernière information, j'aimerais qu'on avance vers...
Très vite, parce que c'est l'enseignant que je veux aussi.
La deuxième question.
C'est la fameuse enquête, téléguidée par le commissariat juif auprès de l'éducation nationale, pour faire la liste de tous les petits juifs dans nos écoles. 12 garçons dans l'école primaire, 14 filles et 6 dans l'école primaire, 32 enfants, et dont la majorité arrivera à échapper, mais pas tous. Une partie sera déportée.
Chaque semaine dans la lorgnette, nous vous faisons une recommandation, un podcast, un ouvrage ou une série documentaire. Cette semaine, je vous propose donc justement une série documentaire dont je vous propose d'écouter la bande-annonce tout de suite.
On arrive.
Bonjour.
Bonjour, Sophie.
Entrez. Passez des gâteaux au fromage et des strudels.
Mais il fallait pas.
Oh, c'est gentil.
Moi aussi, j'avais préparé pour vous.
Je me souviens plus très bien.
Je raconte maintenant, mais personne ne peut comprendre, personne.
Dans peu de temps, on sera plus là et c'est vous qui serez le seul en disant « J'ai vu un témoin qui a vécu cette période. » Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis.
Vous avez de la chance, c'est les derniers que vous prenez là.
Est-ce qu'on arrive à avoir une vie normale quand on a vécu
tout ça ? Tout à fait normal, non. La tête est un petit peu chamarrée, comme on dit.
Je criais la nuit et mon mari me secouait. Il disait, mais t'as fait un cauchemar. Et c'était toujours le camp.
Je me levais comme si on m'avait appelé à l'appel plat.
Dans ce cauchemar, je me voyais arriver sur cette ligne de chemin de fer, sur le quai, avec deux de mes enfants, en disant, mais comment je vais m'en sortir avec mes enfants ?
J'ai toujours peur.
Toute votre vie ?
Toute ma vie.
Vous savez, c'est des images qu'on ne peut pas oublier. Hein ? La honte, l'humiliation, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui passe dans la tête.
Moi, mes sentiments, je crois, sont restés au camp.
Ça me manque, ma famille.
Ouais.
Tout le monde a des familles. Moi, je ne peux pas dire ma famille. Je n'ai personne.
Vous aviez combien de frères et sœurs ?
Nous étions 7.
7 frères et sœurs ?
Tout le monde a été arrêté, déporté.
Salut, mon petit-fils grand. Notre vengeance par rapport aux nazis, ce sont mes petits-enfants et les suivants qui continuent la chaîne, et la chaîne n'est pas rompue.
Je pense que cette peur de perdre encore de la famille, il l'a plus pour nous maintenant.
Absolument.
Par rapport à ce qui se passe.
Moi, je peux dire que j'entends les mêmes propos que ce que j'ai entendu en 40. Hein.
On n'apprend rien de l'histoire. Moi, ça, je suis persuadée qu'on n'apprend rien de l'histoire.
Ce qui est grave, c'est l'indifférence en disant « il ne fera jamais ». Même mon père était dans cet état d'esprit, en disant ce qu'Hitler dit, ça n'a pas d'importance, etc.
Et votre père, il n'y croyait pas, quoi.
Mais beaucoup de gens.
On est dévastés en disant que ça fait 70 ans qu'on essaie de parler. Malheureusement, l'histoire, elle se répète peut-être pas de la même manière, mais ça lui ressemble étrangement.
Asia, merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop...
Non, non, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous voir. Surtout les beaux blancs. Non, je ne connais pas.
Bye bye.
Merci beaucoup.
Ah ouais.
Vous aurez reconnu, je vous ai vu réagir. Donc, c'est la série documentaire, ouais, de Sophie Naoum qui s'appelle Les Derniers, qu'on peut retrouver. On peut retrouver l'intégralité de ses portraits sur la chaîne YouTube qui s'appelle Les Derniers. J'ai évidemment choisi cette série documentaire puisqu'il y a 23 épisodes d'une dizaine de minutes chacun sur les derniers rescapés de la Shoah. Pierre Janel en parlait aussi. C'est pour ça que ça m'a heurté et que j'ai trouvé le pont intéressant. Ces gens sont en train de vieillir. Ils ne seront seront bientôt malheureusement plus là. Ce qui arrive, ce qui me fait tourner vers vous, au devoir de mémoire, je vous voyais tiquer un peu sur l'expression qui semble effectivement chez les historiens parfois complexe à définir. Il y a une intention d'injonction à se souvenir et à commémorer dans l'expression devoir de mémoire. Est-ce que c'est le bon terme? Vous en choisissiez un autre tout à l'heure?
On a un vrai enjeu mémoriel et puis il y a des questions fondamentales qui se posent. Hein. Je me rappelle d'un président de la République, par exemple, qui voulait associer un déporté avec un enfant. Simone Veil lui avait rappelé que c'était une charge qui était trop lourde à porter pour un enfant. Donc parfois, on agit mal, même avec parfois de bonnes intentions sur la mémoire. Hein. Effectivement, nous, par exemple, on souhaite féminiser les noms dans la municipalité, hors d'école, de lieu, etc. Et je me rappelle de quelqu'un qui avait proposé Anne Frank pour une école. Mmh. Et moi, je souhaite qu'il y ait un espace Anne Frank à Blois, mais pas forcément une école, justement, parce que pour le coup, on retombe sur les mêmes travers. Donc nous, dans la municipalité, on a essayé de faire vivre cette mémoire et faire vivre l'histoire qui va avec. Donc ça passe par 6 éléments, je vais le faire très rapidement, mais tout d'abord les témoignages. On a reçu Lily Laignel, notamment, qui était une enfant déportée. Donc on a profité justement du fait qu'elle puisse encore témoigner. C'était bouleversant. Des écoles étaient là au lobby. Je suis heureux d'avoir rencontré cette femme. Quoi. J'ai l'impression d'être privilégié de l'avoir rencontrée. Et je suis persuadé que les enfants aussi. On a une part d'expositions qui sont faites notamment au Centre de la Résistance, de la Mémoire et de la Déportation, qui est dirigé par Clément Evin, donc en partenariat avec BD Boom. Donc c'est aussi des expositions qui peuvent paraître plus légères, plus accessibles aussi, où on peut aller en famille. On soutient la recherche historique, on fait venir des conférenciers, vous avez des cafés historiques ou gratuits où les gens peuvent venir s'instruire parce qu'il y a vraiment un besoin de connaissances. Le quatrième axe, c'est un travail avec les écoles. On soutient, on va dans les écoles, on les aide à créer. Là, par exemple, il y a un formidable travail qui est fait en ce moment sur la Shoah par le Collège des Provinces. Mmh. Et on va travailler avec eux. On va commémorer aussi. Donc, il y a une part de cérémonie qui est un peu plus classique, on va dire. Mais là où, en tant qu'élu, je tiens à être présent et accompagner les enfants. Et puis, on a aussi un dernier axe qui est un axe d'innovation. Comment faire passer les choses différemment? On ne peut pas faire que des cérémonies ou des plaques, etc. On recherche. Donc, par exemple, quand j'étais à Weimar avec la municipalité, j'ai vu qu'ils avaient des pavés de la mémoire.
Oui, en Allemagne, il y en a beaucoup.
Voilà. Alors, donc, j'ai proposé l'idée. On verra si ça aboutit ou pas. Ou, par exemple, un système d'information géographique qui fait en sorte que sur une application, vous pouvez savoir ce qui s'est passé à tel endroit, à tel moment. Bref, trouver des moyens pour interpeller d'une autre manière. On a fait, par exemple, aussi des cartouches vidéo, des petites capsules vidéo de la mairie, justement, qui permet à des gens qui ne sont pas intéressés par les livres ou par les expositions, de voir de manière plus rapide, en quelques minutes, ce qui s'est passé historiquement dans la ville. Parce que ça a été dit, hein, l'antisémitisme est ancien. Je vous rappelle que Blois, c'est aussi la ville qui a connu le premier pogrom recensé, hein, le 26 mai 1171. Il y a 32 juifs qui ont été exécutés parce que juifs. Hein. Et d'ailleurs, là aussi, avec la communauté juive de Blois, on va essayer de leur rendre hommage et de faire partager cette histoire que parfois on aimerait oublier, justement.
Il ne faut pas l'oublier.
Donc, pas l'oublier,
les outils de transmission servent à ça que vous venez d'évoquer. Comment on transmet, Thérèse? Comment l'histoire peut être transmise et donnée aux jeunes générations?
Frédéric, si vous voulez, moi, dans ma tête, comment vous dire? Je crois qu'on ne peut pas dissocier le devoir de mémoire, c'est clair. On ne peut pas, on ne peut pas oublier les individus, certes, ayant formé des groupes, qui ont subi de telles horreurs, alors que c'est une des causes absolument qui étaient totalement insoutenables. Mais, il ne faut pas non plus qu'on oublie, moi, dans ma tête, j'appelle souvent ça le droit à l'histoire. C'est-à-dire, il y a le devoir de mémoire, le droit à l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il faut... je sais que c'est très difficile, je vous en parle d'expérience, moi qui travaille là-dessus, je le disais tout à l'heure, mon mari peut témoigner, moi il y a eu des moments où je ne dormais pas la nuit avec tout ça, tellement ça vous submerge, le sentiment.
Ça submerge, bien sûr.
Mais il ne faut pas que le sentiment, que la révolte occulte le besoin absolument de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ça a eu lieu? Comment se sont enchaînés des mécanismes qui ont abouti à de telles choses? Parce que si on veut, et moi j'aime beaucoup quand les gens disent plus jamais ça, Mais pour qu'il n'y ait vraiment plus jamais ça, encore faut-il qu'au-delà du sentiment, on comprenne et qu'on puisse effectivement intervenir en prévention, en explication, etc. Ça, d'où histoire et mémoire, c'est absolument indissociable.
Frédéric. Oui, j'interviens juste deux secondes, parce que justement, c'est vrai que là où on a un vrai enjeu, alors qui va au-delà de la mémoire, au-delà même de l'histoire, c'est un enjeu fondamental, civilisationnel presque, et on fait venir des chercheurs qui montre que l'histoire, elle continue. C'est une science, on l'oublie un peu souvent. Hein. Ça passe évidemment par le travail de recherche dans les archives, mais pas seulement. Et on a fait venir des gens comme Christian Grau, qui est un spécialiste notamment de l'armée allemande, mais aussi Stéphanie Trouillard, qui est par ces moyens-là, à Blois et dans d'autres villes sans doute aussi, le citoyen lambda n'a pas à avoir honte, peut venir, peut s'instruire et peut comprendre justement que la recherche avance. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Attention aux malfaiteurs de l'histoire, aux révisionnistes. Alors, bien sûr, le révisionnisme, c'est un peu poli, on a changé, etc., les choses pour essayer de faire en sorte que ça passe, mais le danger, il est omniprésent, et on a un vrai enjeu là-dessus.
Mais le révisionnisme, il se nourrit de l'ignorance.
C'est ça.
Il se nourrit de l'ignorance de ces questions-là.
Je conclue justement avec une question, je vais vous demander de clôturer rapidement. J'ai coupé la bande-annonce de cette série documentaire, les derniers, mais certains des témoins de cette époque, la journaliste leur demande si l'histoire se répète ou si on apprend de l'histoire, et ces personnes-là nous disent non, j'ai l'impression que l'histoire se répète, j'ai l'impression qu'on n'apprend rien de ce qu'on a vécu. Quelle réponse vous, Frédéric, vous pouvez apporter ?
Elle ne se répétera pas exactement de la même manière, parce que chacun vit dans une période. Par exemple, aujourd'hui, vous aurez quand même très peu de personnes qui seraient capables de vous faire un racialisme biologique. Vous dire qu'un noir est inférieur à un blanc parce que...
Même pas à l'époque, ils n'ont jamais pu le faire.
En France, on était un tout petit peu vacciné contre ça parce qu'on avait un empire colonial contre les juifs grâce à l'affaire Dreyfus ou à cause, comme vous voulez. Mais d'une certaine manière, l'avis va être différent, mais c'est qu'un vernis finalement. Ils vont vous dire ces gens-là ne sont pas comme nous parce que leur culture est différente, etc. On va enrober, c'est le fameux j'ai un ami noir. Mais le danger au fond, il reste le même. C'est-à-dire on va déshumaniser la personne petit à petit, on va la comparer à un champignon venimeux, à un animal, etc. Pour ensuite faire expliquer qu'éliminer ça, c'est pas comme si on éliminait des hommes. Et ça, ce danger-là est toujours présent. Pour preuve, il y a deux semaines, vous aviez une vidéo qui circulait de propagande du Kremlin qui montrait finalement que les Français qui étaient au Mali étaient des zombies et n'étaient pas des êtres humains, donc on pouvait les tuer, c'était pas grave. Vous voyez, donc ce danger-là, il existe en Afrique, en Russie, mais aussi en France. Il faut vraiment s'en prémunir.
Si vous voulez, moi je comprends ce qu'ils disent, parce que alors c'est vraiment une conviction mienne. Si on ne traite pas les causes qui génèrent périodiquement les mêmes phénomènes, nous aurons des reproductions, alors pas à l'identique,
bien sûr,
mais dans des formes. Pour être tout à fait clair, quand vous reprenez, quand on regarde les thèmes mis en avant dans les années 30 pour nourrir l'antisémitisme, si vous ne les, globalement, elles ressemblent à celles d'aujourd'hui. Vous allez y retrouver le débat des étrangers. Comment ignorer aujourd'hui que le millénaire dans lequel nous sommes entrés sera le grand millénaire des grandes mutations humaines? Bon, voilà. Bon. Si on ne traite pas ça, si vous ne traitez pas un certain nombre d'éléments qui vont toucher à ce sentiment de déclassement social, donc vous aurez des phénomènes de même nature. Alors ils ne vont pas prendre peut-être complètement la même forme. Vous avez une résurgence incontestable de l'antisémitisme, mais je me permets d'ajouter que vous avez la montée en force de l'anti-islamisme et dont les causes. Mais vous savez, moi, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. Je vous le dis sincèrement, c'est de voir qu'un certain nombre d'éléments qui ont abouti à ces horreurs se nourrissent aujourd'hui de la même manière, etc. Et donc, il faut qu'on traite ça. Il faut traiter ça. La pauvreté, la misère, etc. Autrement, nous risquons d'avoir, je vous le dis franchement, des réveils douloureux, et je comprends les résistants, et et les déportés qui ont ressenti ça très, très fortement, dans leur chair.
On va conclure. Merci Frédéric Aurin, donc de la ville de Blois, donc conseiller délégué à la mémoire et à l'éducation mémorielle. Donc, on a compris, vous l'avez précisé, que ce travail passe par l'éducation à l'histoire, alors dans votre métier donc, et puis aussi au travers des travaux donc du CRDM à Blois. Thérèse, est-ce qu'on peut trouver vos travaux quelque part?
Oui, sur mon site qui s'appelle.
Allez-y,
je vous ai. Merci, on remet, de la pub.
Là, on le remet, et puis on remettra sur le
podcast. Tharva.fr et qui donc sont l'ensemble des travaux qui portent sur la Shoah, mais aussi la résistance, la ligne de démarcation, enfin toute une série d'études et qui comporte aussi beaucoup d'études sur la Première Guerre mondiale. Mais ça, c'est
une autre affaire.
C'est un site qui est vraiment fabuleux. Je tiens à le dire en tant qu'historien, là, pour le coup, par la précision, par l'histoire, par le contenu, par la précision de la recherche historique. Thérèse se disait historienne locale, elle est historienne tout court, hein, même si elle ne veut pas qu'on l'appelle comme ça. Mais franchement, c'est un site que je recommande vraiment à tout le monde.
Et moi, je félicite la mairie de Blois, et ce n'est pas aussi convenu, surtout pour ce type d'initiative qui nourrissent précisément la mémoire collective sur toutes ces questions. Voilà, donc merci. Tout ça complète et est bon pour notre département.
On se quitte sur ces mots d'amitié et de... culture. Merci beaucoup à tous les deux, trois en studio d'être venus ici pour parler de ce sujet. On se quitte comme chaque semaine dans la lorgnette avec le journal de bord d'un élu local. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.
Journal de bord d'un élu local, l'épisode 68 aujourd'hui. Il s'intitule COP International, COP régionale et localement. Notre invité, c'est Jérémy Godet, vice-président de la région Centre-Val de Loire.
Salut, on est à nouveau avec Jérémy Godet qui vient de se prendre à fou rire. Et on est dans ma cuisine aujourd'hui, et non pas dans la cuisine de chez Gaël qui nous a planté. Non, qui n'était pas disponible, il ne nous a pas du tout planté.
Ça se fait chez Gaël d'habitude?
Ouais, ça se fait chez Gaël.
Faudra que je revienne vraiment.
Ouais, faudra que tu reviennes. Et donc là, on a vu sur un petit jardin automnal plein de briques. Et sur Stéphane de Canton, notre animateur studio, qui est là en appui. Jérémy, tu es deuxième vice-président de la région sur toutes les questions de climat, économie sociale et solidaire, transition énergétique, et tu habites Argenton-sur-Creuse. On est en ce moment en pleine COP27.
Oui, revenons aux choses sérieuses.
Qu'est-ce que tu veux nous dire de la COP27 et de la COP régionale?
Alors, de la COP27, je ne vais pas forcément dire grand-chose, si ce n'est que je vois qu'en fait, elle est souvent remise en question. Et d'un point de vue général, le processus des COP internationales est souvent remis en question. Et c'est vrai que la COP régionale, quand elle a été créée par Charles Fournier, l'enjeu, c'était de dire que les COP internationales sont nécessaires, mais ce n'est pas suffisant. Et on voit bien que, notamment, une des critiques qui est très forte, parmi beaucoup de critiques de la COP27, mais une des critiques, c'est que les gens se disent « Ben oui, mais ça n'aboutit pas à des actions.
Ouais, »
Or, donc pour moi, ça légitime tout à fait ce que nous, on a initié à la région, avec la COP régionale, et ça légitime un peu tous les processus de COP territoriale.
C'est la mise en action régionale des objectifs de la COP internationale.
Voilà, parce que la COP régionale, pour rappel, c'est un processus, elle a pour objectif de mobiliser les citoyens, les citoyennes, mais plus globalement, ce qu'on appelle les forces vives, les acteurs socio-économiques dans les territoires,
ouais.
Et puis elle a pour objectif de passer à l'action. Voilà. Donc c'est ça existe depuis 2019. Hein, pour rappel, il y a eu un gros processus là encore de démocratie permanente avec un panel citoyen, avec des coopérateurs, etc. 500 coopérateurs, des coalitions d'acteurs. Donc les coalitions, c'est des... En gros, on réunit autour d'une même table différents acteurs d'une filière.
Sur une thématique.
Autour d'un sujet commun. Et ils travaillent ensemble pour faire des préconisations, pour se mettre d'accord. Voilà. Bon, et aujourd'hui, il y a 38 coalitions qui existent sur des sujets qui sont très divers, qui vont de comment réduire l'impact... écologique des festivals type Terre du Son, Printemps de Bourges, etc., des manifestations culturelles, jusqu'à la filière méthanisation qui a produit un cahier des charges pour travailler sur la... c'était quoi, en gros, la méthanisation qui est...
Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit vertueuse, en gros?
Voilà, tu parles très bien.
Et
tu
as dit ce que je voulais dire. Et puis qui a travaillé aussi sur des propositions, notamment de fonds d'investissement pour développer la méta en région. Mais je pourrais vous présenter les 30.
Mais c'est bien. En même temps, là, comme je suis un peu monsieur exemple sur tout ce que tu nous proposes pour dire comment ça se traduit dans des territoires, j'ai quelques exemples. Le premier exemple sur la COP internationale, où avec le regret que tout ça ne mène pas sur des actes. La semaine dernière, on a des citoyens, je ne sais pas si tu as entendu, français, qui se sont fait arrêter à Munich pour s'être collé les mains sur un salon BMW en regrettant que la transition écologique ne se sentait pas dans les actes. Eh bien, un de ces acteurs, c'est justement un habitant de Blois, qui est un enseignant-chercheur de l'INSA et qui a été du coup mis en prison là-bas et qui fait partie de ces scientifiques qui dit il faut rentrer en résistance climatique pour dire ça suffit, passons aux actes. Donc ça, c'était plutôt sur l'alerte, en effet on a besoin d'actes, et puis sur la réalité de ce que ça crée, votre COP régionale, la COP régionale que vous avez mis en place avec Charles, localement, suite à cette grande tournée dans les territoires où vous êtes allé chercher les besoins des territoires. Il en est remonté le besoin en ingénierie, en accompagnement, en financement sur certaines thématiques, et vous avez lancé un appel à manifestation d'intérêt.
Oui, il y a un appel à manifestation d'intérêt on est venu soutenir 50 projets en région, dont 3 effectivement à Blois, je crois.
Ouais, plusieurs à Blois, et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont assez diverses, et on en a un sur le numérique durable qui est en train de se lancer, et je sens un vrai plaisir des services. Ça leur a permis d'être enfin, comment dire, entendu, que ça devienne un sujet à part entière, et ça va permettre à la fois de mieux gérer la donnée, l'information, de mieux l'organiser dans les services. Donc les agents gagnent en effectivité, mais en même temps on diminue l'impact carbone, on travaille sur la réduction de notre impact, sur de notre software, hardware, etc. pour ce premier exemple. Deuxième exemple, l'achat durable. Vous nous avez permis, par un accompagnement en ingénierie, en accompagnement, de travailler sur toute la politique d'achat des collectivités, sachant que dans le PIB français, les politiques d'achat des collectivités, ça compte beaucoup sur les politiques d'achat. Et donc, ça permet nous-mêmes d'être exemplaires dans nos choix d'achat pour faire du local, faire du biosourcé ou autre.
Moi, je pense aussi à un projet par chez moi, dans le PNR de la Brenne, où l'AMI COP est venue financer, co-financer une maison de l'éco-rénovation nomade qui se balade dans les territoires, qui se balade dans les villages en fait, et qui est un peu un outil de la plateforme territoriale de rénovation énergétique, mais qui vient répondre à comment on va au-devant des habitants, etc. Voilà. Et puis il y a aussi le projet Vélio, qui est l'invention d'un vélo cargo. Je ne sais pas comment on peut dire, parce qu'il n'a pas forcément la forme, qui se recharge au solaire. Voilà. Donc là, c'est des gens qui développent ça. Et puis en plus, il propose les plans à tout le monde, c'est en libre. Voilà. Donc, et ce que je voulais dire j'embraye une autre idée, c'est que la COP, elle vient, et c'est ça qui est intéressant, on s'est engagé à ce que ça vienne nourrir et un peu bousculer les politiques publiques de la région elle-même.
Ah, super.
Aussi bien en interne, on a voté à l'issue de la COP un plan de transition de la collectivité, avec notamment tout un processus de formation des agents, l'engagement de former l'ensemble des agents de la collectivité, y compris les agents qui sont dans les lycées, aux questions climatiques. C'est quelque chose qui est commencé, et puis ça vient aussi nourrir les politiques publiques. Par exemple, là on vient de créer un accélérateur des transitions sur le champ du développement économique. On vient de créer un CAP. Le CAP, c'est contrat d'appui au projet transition écologique. Tout ça, c'est issu aussi des travaux des coalitions. Là, je parlais de la filière Meta qui avait travaillé dans le cadre d'une coalition et qui a demandé la création d'un fonds d'investissement sur la méthanisation. Et on est en train de travailler à ça dans le cadre de la REC. C'est l'Agence régionale énergie-climat qu'on va créer en 2023. Et dans la REC, il y aura un outil financier pour développer les énergies renouvelables.
Ouais, bah ça fait.
Donc c'est aussi parce que entre guillemets la promesse de cette COP et notamment à travers le processus participatif, c'était de dire que ça va quand même venir aussi se concrétiser dans les actions de la région, quoi. Voilà.
Donc, non mais c'est
important de raconter cette histoire, je trouve, parce que le temps passe. Ça a commencé en 2019, on est en 2022. Et voilà, c'est important de dire que bah ouais, tout ça, ça a permis à la région d'avancer sur des sujets. Je pense au CRST, on en parlait tout à l'heure, dans les contrats régionaux de solidarité territoriale, dans les prochaines programmations, il y aura 40% qui seront dédiés à la transition écologique. Et donc ça, c'est pas issu directement de la COP, mais ça fait partie des choses qu'on a poussées à la suite de la COP, après avoir été interpellé notamment par les citoyens et les citoyennes.
Moi, ça fait quoi ? Plein de choses. Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on voit bien que c'est un accélérateur concret, que ça accélère beaucoup de choses parce que ça touche plein de mondes différents du fait que l'accompagnement s'adapte aux échos que vous avez eu des territoires et après, du coup, plein de gens s'en saisissent. J'ai cité, nous, beaucoup notre collectivité, mais un autre truc sur lequel on a été retenu grâce à vous, c'est un petit maire rural qui refait son école pour qu'elle soit autonome en énergie, qu'elle fasse de la gestion durable des eaux pluviales dans sa cour, qu'elle désimperméabilise la cour d'école, plus qu'elle soit un refuge de biodiversité pour les oiseaux et tout ça. Il fait tout ça et là il se sent soutenu par la région parce que ça s'inscrit dans un cadre plus global. Donc on voit, on touche des acteurs privés comme celui qui développe le vélo, des acteurs publics comme des collectivités qu'on aide à se transformer. Et d'ailleurs, comme tu le soulignais, les propositions sont montées des agents de la collectivité et pas des élus, ce que je trouve aussi intéressant en termes de démocratie, ou des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens, et donc vous arrivez à toucher plein de gens, et ça sert d'accélérateur.
Et on va relancer un AMI en 2023.
Et puis après, tu disais que toi aussi, c'est votre collectivité elle-même qui se transforme, et je le sens aussi dans mon quotidien. Alors, par un autre, ce qui est embêtant à la radio, c'est qu'on se dit il y a des contrats dans tous les sens. Nous, c'est contrat d'objectif territorial.
C'est avec l'ADEME, ça, ouais.
Et c'est avec l'ADEME, mais qui est toujours un partenaire assez fort avec la région, souvent, et les COP.
Et dans le cadre des CRST,
contrat régional de solidarité territoriale.
Les collectivités qui s'engagent dans des cotes. C'est vrai qu'on enchaîne les cibles, là.
Mais disons que grâce à ce contrat, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que dans ce contrat, l'ADEME nous pousse à former tous nos agents à la transition écologique et former les élus à la transition écologique. Ouais. Et finalement, ça rejoint votre dynamique.
Exact.
Donc, on voit bien que les contrats s'enrichissent les uns les autres de ce qui fonctionne à côté. Et je pense en effet que pour accélérer, il faut de la formation, comme on le disait tout à l'heure. Et si les élus ne sont pas formés, ils ne peuvent pas.
Alors, nous, c'est les agents.
Former tous les élus existe, et aussi les agents. Et on va faire les deux. Et je trouve ça vraiment. Voilà, on sent l'échelon supra, la région, l'ADEME, etc., qui est un facilitateur dans les territoires. Et je crois vraiment que ce rôle d'être facilitateur en tant que politique publique, c'est vachement. C'est ça qui fonctionne pour accélérer à la bonne vitesse, quoi.
Eh ben merci.
Voilà, donc bravo, merci. Et c'est super. Merci beaucoup de ta venue.
Bah, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de venir.
On va finir notre petit café tous les trois et on vous dit à tous à très bientôt. Salut, salut. Moi, c'est Nico et c'est mon premier mandat.
Ton premier mandat de quoi ?
Je suis vice-président d'une agglomération et co-président d'un groupe écologiste à Blois.
Non, moi, je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast.
Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité.
Et on en a déjà fait 60. Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast à raison de 3 par mois. Les applis de podcast, c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast.
Et on est aussi sur la radio locale Studio Zef.
Agitateur de fréquence.
Dans l'émission La Lorgnette.
C'est 91.1, c'est ça ? FM.
Chaque jeudi.
À 17h.
Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao.
Ciao, merci. Ciao, ciao.